Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Mild Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199 euros par mois. Arkana Business Mild Hybrid 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiac, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi aujourd'hui, il y a Paul Lassen, journaliste RMC. Salut Paul.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Qui a potassé tous les sujets pour bien tout nous expliquer pour qu'ensuite on puisse débattre ensemble au 32-16. Autour de lui, il y a Thierry Moreau, journaliste média. Salut Thierry.
Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous.
Il y a Élise Goldfarb, entrepreneuse et militante féministe. Salut.
Salut.
Élise, et puis Frédéric Carmel, journaliste RMC. Et salut Fred.
Moi aussi.
Toi, tu entreprends aussi, régulièrement, c'est ce qu'on m'a dit. Dans un instant, 6 Français sur 10 craignent des violences à l'issue des législatives. Et vous, est-ce que vous êtes dans cette crainte? Vous nous appelez au 32-16. À 12h30, votre sommeil est notre principal concurrent. C'est ce que dit le patron de Netflix. Faut-il boycotter la plateforme? À 13h, la délinquance des mineurs. Faut-il leur donner une deuxième chance à ces mineurs délinquants? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC. Le zapping. À 14h, faire des courses dans les commerces de proximité. Est-ce que c'est devenu un luxe? À 14h40, les immanquables. On joue également, Paul, oui, aujourd'hui.
Puisque cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister au 8e de finale de l'Euro entre la France et la Belgique. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le vol jusqu'à Düsseldorf, l'hôtel. Vous rencontrerez les équipes RMC présentes sur place et évidemment deux places pour le match qui aura lieu lundi à 18h. Alors dès que vous entendez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour jouer en envoyant Euro au 732-16. Euro au 732-16.
Et on a une bonne nouvelle. On a du bol parce que du côté de Dourdan.
Exactement, si vous habitez du côté de Dourdan, on ouvre aujourd'hui une nouvelle fréquence RMC 90.1. Vous êtes 150 000 nouveaux auditeurs à pouvoir nous suivre. Top.
On est en région parisienne et en plus sur la 10,
oui,
désormais.
On a une très bonne nouvelle. Si vous passez Saint-Arnoux.
Non, mais c'est important. Bah,
quand vous êtes sur la 10, que vous passez Saint-Arnoux, automatiquement RMC se coupe. Et la très bonne nouvelle, sur la route des vacances, vous pourrez écouter RMC.
Et chaque auditeur compte pour nous. Chaque auditeur compte.
RMC Estelle Midi.
La crainte du jour, crainte de débordement à l'issue des élections législatives. En début de semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué le risque de troubles à l'ordre public, des affrontements entre des membres de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche, notamment à l'issue du scrutin, celui de dimanche, puis celui du 7 juillet. Une crainte que partagent de nombreux Français, Paul.
Oui, et outre Gérald Darmanin, Rémi, Marine Le Pen, elle aussi, a admis que la potentielle arrivée du Rassemblement National au pouvoir pourrait amener des tensions dans le pays. Si nous gagnons les législatives, alors il y aura probablement des manifestations dans les rues, dit-elle, accusant par avance l'extrême gauche d'en être responsable. Et ce sentiment, Rémi, il est partagé par une majorité de Français. D'après un sondage CSA, 61% d'entre eux craignent des émeutes et ou des manifestations violentes à l'issue des résultats des élections. Ce sont les Français les plus âgés qui craignent ces manifestations violentes. 69% des 65 ans sont inquiets, 66% des plus de 50 ans. Et ils sont 56% des moins de 35 ans à craindre des débordements à partir du 8 juillet. Et quel que soit le profil politique des Français, la crainte est généralisée. Les sympathisants de gauche, que ce soit LFI, PS ou les écolos, sont 63% à redouter des émeutes. Chez les macronistes, le taux est de 60%. Même chose chez les sympathisants de droite. 65% craignent des manifestations violentes, dont 75% des partisans des Républicains. Chez les électeurs de l'extrême droite, dont le Rassemblement National, ils sont 63% à redouter des émeutes.
6 Français sur 10 craignent des violences à l'issue des législatives. Et vous, vous nous appelez au 32-16. Frédéric, est-ce que tu as cette crainte?
Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai cette crainte. Si le Rassemblement National arrive au pouvoir, il y a des gens qui ne vont pas accepter le choix démocratique des Français. De toute façon, vous avez déjà des appels. Hein. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, l'Université de Nanterre appelle en sortant totalement du droit de réserve des fonctionnaires, les présidents de l'Université de Nanterre qui appellent à faire barrage au Rassemblement National. Il y a plein de gens qui...
Il y a également, refuser. On en a parlé cette semaine, aux fonctionnaires de l'Éducation nationale qui bien disent sûr, qu'ils n'obéiront pas si le RN...
Donc c'est une forme de violence. Quand tu refuses de faire ton travail de fonctionnaire, quand tu vas à l'encontre de ceux pour qui les Français ont voté, c'est une forme de violence. Mais surtout, la première violence, c'est-à-dire qu'il y aura... évidemment des manifestations, des grèves, et on sait ce qui se passe dans les manifestations, il y a des groupes volants, des violents, qui s'infiltrent et qui cassent tout.
Et si jamais c'est, plus hypothétique, en tout cas d'après les sondages, mais si jamais c'est la gauche qui arrive au pouvoir ?
Je pense qu'il ne se passera rien. Je dis vraiment comme je sens.
Bah si.
Je termine. Okay.
Avec plaisir.
Aujourd'hui, quel syndicat, par exemple, quel syndicat de droite ? Est-ce qu'il y a des syndicats de droite aujourd'hui ? Non.
Non, mais il y a des groupuscules d'ultra-droite.
Oui, mais combien ? On est quoi ? On est quelques dizaines de personnes. Non, mais je veux dire, c'est au maximum quelques centaines de personnes. Ouais. C'est tout. Enfin, je veux dire, les Black Blocs, c'est beaucoup plus. Les manifestations, les syndicats qui appellent à faire barrage au Rassemblement National, ce sont des syndicats de gauche. Il n'y a pas en France de groupe, je veux dire, officiel. Vraiment de droite, quoi.
Ah bah il y en a plusieurs qui ont été dissous hier.
Non, mais je parle de groupes officiels comme
du GUD et d'autres.
Comme des syndicats, comme des partis politiques, oui. etc.
Je veux dire, de formation
aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, on sent pas. Je n'ai pas entendu de gens dire annoncer officiellement que si la gauche arrive au pouvoir, elle arrêterait de travailler.
Le GUD, ils vont sortir de leur grotte. Hein.
Comment ?
Le GUD, il peut sortir de sa grotte à tout moment.
Oui, Jordan Bardella a annoncé sa dissolution. Tu as tout à fait raison.
Oui, bah,
non, c'est pas Bardella.
Jordan Bardella a annoncé la dissolution du GUD.
Oui, mais il est responsable. C'est Gérald Darmanin qui l'a décidé, le ministre de l'Intérieur.
Jordan Bardella a annoncé dans une interview
que s'il arrivait au pouvoir, il dissolverait le GUD. Il n'aura pas à le faire puisque Gérald Darmanin a fait avant lui.
Oui, mais on lui a posé la question. Donc voilà, c'est la question.
Élise,
aujourd'hui, cette forme de résistance, si l'extrême droite arrive au pouvoir, se transforme en violence, c'est clair.
Élise, est-ce que tu crains des violences ?
Moi, je crains évidemment des violences et je ne crains pas que des violences après les élections de type manif ou émeute. Je pense que la société va devenir violente. Je pense qu'en fait, il y a une brutalisation totale du discours politique. Pour moi, la France, c'est un peu comme une famille. Quand tu vois tes parents être violent, bah souvent t'es violent. Et bah aujourd'hui, tu regardes l'Assemblée nationale, ce qui se passe quand tu regardes les questions au gouvernement sur la chaîne parlementaire, c'est d'une violence rare. Les propos que nos députés et les candidats arrivent à tenir sont violents, c'est brutal. Donc évidemment que la société va devenir brutale. Pour moi, on a passé quelque chose. Je sais pas si vous connaissez la théorie de la fenêtre d'Overton. C'est une théorie qui dit que, enfin, c'est un truc qui analyse les passages aux extrêmes dans la société. C'est comment des paroles qui étaient impensables à un certain moment peuvent devenir populaires. Pour moi, le RN a fait que le racisme, c'était des mots impensables, le racisme dans l'Assemblée, à une époque. Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt acceptable. Chez LFI, l'antisémitisme, c'était impensable.
Il y a eu des mots racistes aujourd'hui, à l'Assemblée depuis
on
la...
Peut pas, on peut pas
retourne en Afrique, oui, il y a quand même des députés. Il y a quand même des députés qui ont été...
C'est un député sur une interprétation qui est faite, c'est un député.
Ouais, il s'adressait aux migrants. Qu'il retourne en Afrique.
Voilà.
Voilà. Il y a eu ça. Donc,
on parlait de migrants.
Cite-moi un autre exemple.
C'était quand même assez violent.
C'était maladroit.
Je parle de l'Assemblée, je parle de leurs propos dans les médias, je parle du climat.
Est-ce que tu as entendu pendant cette campagne un membre du Rassemblement National tenir des propos racistes dans les médias ?
Oui.
Cite-moi un. Vas-y.
Oui.
Un.
Quand Éric Zemmour parle d'immigration, je suis désolée. Pour moi, c'est très violent.
Éric Zemmour n'est pas au Rassemblement National.
Oui, je te dis, le RN, c'est l'extrême droite.
Il n'y a pas eu d'accord, ils ne le font pas.
Oui, mais
ils présentent des candidats contre le Rassemblement national.
C'est comme LFI, quand on dit qu'ils sont antisémites, on ne peut pas porter plainte contre eux pour antisémitisme. C'est un climat. C'est des climats qui sont développés. C'est un climat raciste, un climat antisémite.
Ils n'ont jamais été condamnés.
Ils n'ont jamais été condamnés.
Tu ne peux pas dire que c'est des propos antisémites.
Exactement. Par exemple.
Rima Hassan n'a jamais été condamné pour antisémitisme.
Pas encore.
C'est un climat qui laisse poser, c'est un peu des signaux faibles d'antisémitisme.
Quand Rima Hassan dit du fleuve jusqu'à la mer.
Ouais, non mais attends, évidemment. Non mais moi je conteste pas ça. Tu vois, tu me connais, surtout mon avis sur la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un climat qui est devenu totalement acceptable de violence. On a le droit d'être raciste, d'être antisémite, d'être sexiste. C'est la liberté. Donc oui, moi je crains des violences.
Thierry Moreau,
je ne crois pas. La fenêtre d'Overton, ça permet en fait des choses qui étaient inacceptables de devenir acceptables. En revanche, dans notre société, ce qui peut être passé pour acceptable pour certains propos, ça reste condamnable pour d'autres. Racisme, antisémitisme, tout ça c'est condamnable et c'est condamné.
Depuis le 7 octobre, il y a des procédures. L'antisémitisme, il est overtonien.
Eh bien, mais pas du fait du Rassemblement National.
Il y a des procédures en cours, la justice est saisie et il y aura des condamnations si les faits d'antisémitisme ou de racisme sont avérés. Donc la fenêtre d'Overton, en fait, elle permet à des concepts qui paraissaient inacceptables de devenir acceptables dans le champ global de la discussion politique. Mais en revanche, ce qui est contraire à la loi reste contraire à la loi. Alors, pour revenir à la question de Rémi, oui, il y aura des troubles, oui, il y aura des manifestations, mais ça sera pas la guerre civile d'abord, parce que la guerre civile, je pense que le mot qui a été employé ces derniers temps, ces derniers jours dans le débat politique, est une erreur, absolument, parce que la guerre civile, c'est des gens qui prennent les armes contre d'autres gens de leur même pays. Et ça rappelle des choses qui se passent qui sont passées en Espagne au moment de la guerre d'Espagne, qui sont passées dans d'autres pays. On n'est pas dans la guerre civile.
Et tu penses qu'on en est proche?
Pardon?
T'as pas l'impression qu'on peut en être proche?
Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une violence qui s'exprime dans la rue avec effectivement, il y aura des manifestations, il y aura sans doute des débordements, mais force restera à la loi. Je pense que les forces de l'ordre, elles sont prêtes à intervenir, elles sont décidées à intervenir pour conserver l'ordre républicain, et puis, le résultat des urnes s'imposera finalement à tous, parce que c'est la façon dont fonctionne notre démocratie. Donc, je pense qu'il y aura sans doute une période. On a eu une période à la suite de l'affaire Naël l'année dernière qui a duré de nombreuses semaines où il y a eu beaucoup de dégradations et je crois qu'on en reparlera tout à l'heure avec des gens qui sont jugés aujourd'hui pour ça. Eh bien, je pense que il y aura sans doute des manifestations, mais force restera à la loi. Nous sommes un pays solide avec des institutions solides, avec des garants de ces institutions que sont la police et la justice. Et donc, je pense qu'on s'en sortira.
6 Français sur 10 craignent des violences à l'issue des législatives. Et vous nous appelez au 32-16. Lucas nous rejoint. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est à Palavas-les-Flots dans l'Hérault, Lucas.
Oui, tout à fait.
Déjà en vacances, Lucas, toute l'année en vacances.
On peut dire comme ça, oui, c'est très agréable, c'est vrai.
Vous faites quoi dans la vie, Lucas?
Alors, je suis dans le domaine artistique.
D'accord, très bien. À l'issue de ces législatives, que ce soit au soir du 30 juin ou encore au soir du deuxième tour, au soir du 7 juillet, est-ce que vous craignez qu'il y ait des débordements?
Mais écoutez, sincèrement, moi j'ai appelé justement parce que je pense qu'il faut être optimiste. Il faut rappeler, comme le disent vos invités, qu'on est dans un pays en démocratie et que quelles que soient les couleurs, les politiques, dans notre gouvernement, les présidents ont été un coup de droite, un coup de gauche. Il y a eu Monsieur Macron et je crois que chaque citoyen doit respecter la démocratie. Pour moi, c'est la première des choses. Et lorsqu'on dit qu'il y a peut-être des gens qui vont descendre dans la rue, on a peur que ce soit violent. Donc, on suppose que ce sont des gens violents qui seront dans la rue. Et je ne pense pas qu'on aura lundi matin, quels que soient les résultats des élections, des instituteurs, des infirmières, des policiers, des pères ou des mères de famille dans la rue qui vont descendre. Je pense qu'ils auront autre chose à faire. Et souvent, lorsqu'on a des gens violents dans la rue, ce sont souvent des extrêmes. Donc, moi, je pense qu'on a une police, une gendarmerie, on a l'armée. Et à un moment ou l'autre, il faut que la France soit en mesure de démontrer, justement pour que chaque citoyen se sente en sécurité dans son pays, qu'on peut faire respecter l'ordre dans notre pays. Et je pense que c'est ce qu'on a tous besoin, justement.
Thierry, j'entends que tu
approuves. Je pense qu'il a raison. On a des garde-fous. Alors évidemment, il y aura des manifestations. Il y aura des manifestations pacifistes pour protester contre une éventuelle victoire du RN si elle a lieu. On aura des groupuscules violents comme on en a toujours eu depuis des années et des années. Mais ils sont ultra minoritaires. Encore une fois, on a des forces de police qui sont compétentes, nombreuses, efficaces et prêtes à garder à préserver la République.
Merci Lucas d'avoir été avec nous. Lucas qui nous appelait depuis plaisir partagé depuis Palavas-les-Flots dans l'Hérault. Jean-Yves Camus nous rejoint. Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Merci encore une fois d'être avec nous Jean-Yves Camus. Jean-Yves Camus, on est quand même dans un contexte politique inédit. Alors ce n'est pas fait. Ce n'est que de la politique fiction pour le moment. Mais on pourrait avoir, au 7 juillet, au 8 juillet, pour la première fois, un gouvernement d'extrême droite. Certains ne vont pas partager mes propos. En tout cas, un gouvernement de droite conservatrice, ultra-conservatrice, le RN au pouvoir. Est-ce que on peut craindre une réaction violente de la part de la nouvelle opposition ?
On peut craindre une réaction. On peut craindre des manifestations. Savoir si elles sont violentes est une toute autre affaire. Et pour ma part, je n'aurais pas utilisé non plus le terme de guerre civile. Ah oui. Pourquoi ? Parce que dans toutes les manifestations que nous avons connues ces dernières années, sur tous les sujets importants des deux quinquennats, il y a eu des éléments violents d'ultra-gauche, ou dans une certaine mesure, dans une moindre mesure d'ultra-droite, qui ont cherché à se faire entendre lors de ces cortèges. On l'a vu par exemple pour l'ultra-droite pendant les cortèges des Gilets jaunes, mais cela représente quelques dizaines, quelques centaines, pour ce qui est des Black Blocs et de l'ultra-gauche, de personnes que la police, la gendarmerie sont habitués à contrer avec des techniques de maintien de l'ordre qui sont bien rodées, et le renseignement intérieur connaît ces gens, suit ces gens, les deux radicalités, sans compter évidemment la radicalité islamiste. Donc on a affaire à des acteurs que l'on connaît d'avance. D'un côté, à l'ultra-gauche, des gens qui chercheraient à tirer profit de la nomination d'un gouvernement mené par le Rassemblement national pour crier au fascisme et poursuivre dans la rue cette espèce de combat fantasmé contre le fascisme qu'ils tentent de rejouer comme dans les années 30. Et de l'autre côté, un risque qui est celui que certains groupuscules d'ultra-droite, particulièrement ciblés par le gouvernement ces dernières années, particulièrement souvent dissous, avec des acteurs des fois comme des individus des fois condamnés pour des faits de violence, se sentent un petit peu, on va dire, libérés par la victoire d'un Rassemblement national qu'ils voient comme une composante de leur camp au sens le plus large du terme. Sauf que ça n'est absolument pas dans l'intérêt du Rassemblement national arrivant aux affaires de laisser quelques dizaines de trublions d'ultra-droite mettre le bazar, ne serait-ce que dans une ou deux manifestations qui descendraient dans la rue. Ce serait à ce moment-là acter le fait qu'il existe une collusion entre le RN et les groupuscules. Ouais. Et ça,
d'où la position
Jordan Bardella en veulent.
Voilà, d'où la position de Jordan Bardella lorsqu'on l'a interrogé sur le GUD, qui est un mouvement d'ultra-droite violent. Quand on lui a posé la question, il a dit oui, si j'arrive au pouvoir, j'y mettrai fin au GUD.
Oui, enfin, sauf qu'il n'y a pas que le MUD, si vous voulez, que le MUD, qui par ailleurs va être dissous par le gouvernement, ça ne représente que quelques dizaines d'individus. Ce qu'on voit en ce moment, c'est en province une reconnaissance des agressions homophobes, des agressions à caractère raciste, par des petits groupes qui sont de plus en plus nombreux, qui ne sont pas immenses, c'est 10, 20, 30 personnes dans chacune des grandes métropoles et dans des villes un petit peu plus petites. Est-ce qu'il y a des individus qui effectivement se diront « ça y est, la victoire est à nous, le RN a gagné » Sauf que là encore, le RN, je crois, s'il est responsable, une fois arrivé aux affaires, ne pourra pas laisser se développer ce type de violence. Ce serait, y compris en termes d'image à l'international, totalement contraire à leur politique de normalisation.
Donc, en revanche, est-ce qu'il peut y avoir agitation sociale ? Des grèves,
sans doute agitation sociale, mais j'allais dire, on a vu pendant la réforme des retraites, dans les manifestations pour l'hôpital public, avec les manifestations des Gilets jaunes, que la contestation sociale, quand elle descendait dans la rue, pouvait être déjà massive, pouvait être plante et pouvait déboucher sur des heurts. Donc ensuite, ce qu'il faudra voir, c'est quelles seront les techniques de maintien de l'ordre qui seront utilisées, quelles seront les techniques des ordres qui émaneront du ministère de l'Intérieur face à des mouvements de contestation sociale. Mais en principe, si vous voulez, oui, il y aura des mouvements de contestation sociale. Ça me paraît assez inévitable. Est-ce que ces mouvements seront plus radicaux que ceux qu'on a connus depuis 2017, j'en suis pas certain, parce qu'on a quand même eu, passez-moi l'expression, notre dose.
Oui. Ouais. Et tout l'intérêt, on l'a bien compris, d'un RN au pouvoir, au gouvernement, ce serait de gérer le plus pacifiquement possible ce type d'agitation.
Bon, il y a aussi une autre possibilité, c'est que le gouvernement ne soit pas un gouvernement rassemblement.
Absolument, on l'a évoqué tout à l'heure.
Que cela soit géré de manière pacifique et républicaine.
Merci Jean-Yves Camus d'avoir été avec nous, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Karim nous rejoint. Bonjour Karim.
Oui, bonjour. Merci
d'être avec nous sur RMC Story dans Estelle Midi. On est dans l'Essonne, Karim.
Oui, c'est ça. Ouais,
vous faites quoi dans la vie ?
Je suis formateur en insertion professionnelle. J'aide les personnes au RSA et les travailleurs handicapés à trouver du travail.
Très bien. Karim, Est-ce que vous faites partie de cette majorité de Français, 6 sur 10, qui craignent des incidents, des débordements à l'issue de ces législatives?
Mais moi, je vais être encore plus poussé dans l'analyse. Pour moi, les violences, elles ont déjà commencé. Pas les violences depuis, on prend la genèse, depuis la victoire du RN aux européennes. Et au sondage qui les donne en tête, il y a une grosse parole raciste qui s'est libérée. Peut-être que pour Fred Armel, c'est pas des violences, mais pour moi, quand je vois Mohamed Bouafsi, son ex-collègue, qui dit « tu me fais insulter 4-5 fois par jour », moi, il y a une personne que j'ai croisée qui me dit « dans 3 semaines, la France va redevenir comme avant ». Si pour lui, les violences n'ont pas commencé, pour moi, elles ont commencé.
Si, je vous confirme,
Non, 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 mais attendez, laissez-moi
terminer. Non, mais je vous confirme que je me fais insulter et qu'on traite de sale blanc régulièrement sur les réseaux sociaux. Je vous confirme.
Sur les réseaux
insupportable et que ce reste, et que le racisme est insupportable, on est tout à fait d'accord.
Fred, Karim, et après Fred, tu réponds. Allez-y, Karim.
Monsieur Armel, je dénonce la violence dont vous faites part autant que celle que je reçois. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. D'accord? Donc, on s'arrête tout de suite. Même non, monsieur Adarmel,
c'est vous qui faites une hiérarchie.
Je voulais juste vous dire un petit truc. La violence a déjà commencé, et ne serait-ce que sur la base des sondages. Je trouve ça encore plus alarmant. D'accord? Et ne serait-ce que pour son collègue Mohamed Bouafsi, Fred Armel devrait se dire, ça a déjà commencé, la tension est mauvaise. Donc, il arrête d'impacter ça aux gens de gauche et qu'il regarde du côté du RN où ça a déjà commencé, la parole raciste se libère. Je demande aux Français de se mobiliser, non pas pour un camp contre l'autre, mais pour dire apaisons les choses et rentrons dans un débat sur le fond. Arrêtons les clichés, les stéréotypes. Et j'en veux énormément aux médias. Attention, je ne leur fais pas porter toute la faute. Mais comme tous les jours, il y a des articles qui stigmatisent une catégorie de Français, je répète, de Français, on ne peut que travailler les cerveaux sur le long terme. Et monsieur Fred Armel, je vous dis une dernière chose. Quand les jeunes d'origine maghrébine, ça rappelle Karim Benzema ou Zinedine Zidane, ça ne vous pose pas de problème.
Mais
quand
attention, monsieur.
Fred,
je vous demande de retirer ce que vous insinuez. Ce que vous insinuez. Sinon, Karim, ça va pas bien aller, monsieur.
De toute façon,
Monsieur.
Non, mais moi, je vais le retirer pour lui.
Monsieur, les situations sont insupportables, monsieur.
Et elles n'ont pas lieu d'être, je le dis.
Là, je ne peux pas accepter.
Frédéric, je vais mettre les choses au point.
J'attends les excuses de monsieur.
Je vais mettre les choses au point. Je prends Karim et je te prends un témoin. Je peux dire que jamais, ces positions n'ont été tenues ni à l'antenne, ni dans le privé. C'est mal connaître Frédéric Armel que de l'accuser de ça. Donc Karim s'est un peu emporté.
Mais monsieur va s'excuser.
Karim s'est emporté.
Je ne peux pas accepter ça.
On ne l'accepte pas, Frédéric. Je viens de le dire. On n'accepte pas et on ne peut pas t'accuser de racisme sous quelque forme que ce soit.
Parce que ça, c'est accuser quelqu'un de racisme.
C'est un préjugé qu'avait Karim, apparemment.
Bon. Oui, mais ça, c'est pénalement répréhensible.
Oui, on est d'accord. Est-ce que Frédéric, toi, tu estimes, malgré tout, comme le dit Karim, qu'aujourd'hui, il y a une parole qui se libère?
Ah oui.
Il y a une parole antisémite qui s'est libérée depuis le 7 octobre, sans aucun doute.
Et depuis le 9 juin, est-ce qu'il y a une parole raciste qui s'est libérée?
Non, pas plus qu'avant. Il y a du racisme dans notre pays qui est insupportable. Ce qui est arrivé à notre ancien collègue Momo ou à Karim Brizo, c'est insupportable. C'est insupportable.
Car des dettes d'insultes à caractère raciste.
L'autre jour, j'ai fait un tweet parce qu'on m'a traité de sale blanc. Tous les jours, je me fais traiter de consanguin parce que je suis ch'ti comme moi.
Oui, mais...
Attends, s'il te plaît.
Mais t'es pas discriminé,
Non, je viens de te mettre en cause, s'il te plaît, tu vas me laisser défendre.
D'accord, vas-y.
Allez.
Tous les jours, je me fais traiter de tous les noms pour les positions que je prends. Déjà, par exemple, le fait d'avoir annoncé de m'être fait vacciner 3 fois, ça a été déferlant.
Thierry pourrait témoigner aussi.
Thierry, c'est ce que c'est. Ouais. Il y a une violence dans la société depuis quelques années, qui est d'ailleurs un peu liée aussi au Covid. Hein. On a l'impression que depuis le Covid, que c'est du délire. C'est du délire. Et moi, je ne peux pas laisser dire ça à ce monsieur.
Eh bien, on ne laisse pas dire.
Oui, je suis le biographe de Zidane. Oui, j'ai suivi Karim Benzema pendant de très nombreuses années. Et j'étais le seul à le défendre pendant de nombreuses années. Et c'est tout à fait insupportable.
Fred.
Le fait d'accuser des gens de racisme, Fred, ça banalise le racisme. Justement.
On est d'accord. Et tu n'as pas à t'excuser. Je m'en porte garant.
Je vais pas
m'excuser.
Non, mais
tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier, Fred. Tu n'as pas à te justifier. Et je rappellerai juste, on va conclure là-dessus, que le racisme, c'est un délit.
Et accuser les gens de racisme, c'est de la diffamation et c'est pénalement répréhensible. Et je vais réfléchir à ce que je fais suite à cette intervention.
Les choses sont dites. 6 Français sur 10 craignent des violences après les législatives. Et vous?
Visiblement, Paul. Rémi, nos auditeurs sont un tout petit peu moins inquiets que la majorité des Français, puisqu'ils répondent non, mais pour seulement 51% d'entre eux. Non, mais je t'en prie.
Non, je t'en prie, tu voulais dire quelque chose?
Non, pas du tout.
Dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC Story. Paul, Pour le patron de Netflix, son principal concurrent, ce ne sont pas les autres plateformes, mais notre sommeil. Moins nous dormons, plus il est heureux. Faut-il boycotter Netflix? On vous pose la question, vous nous appelez au 3216.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
La suite d'Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Vous pouvez nous regarder notamment à la teste de bûche. Et
oui,
parce que comme j'ai dit tout à l'heure.
Oui, Rémi, hein, Alice et Stéphane et d'autres nous ont écrit sur Direct Studio. On dit bien la teste de bûche, Rémi, et pas la teste.
Mais j'ai le grand tort de ne pas connaître la région, donc si vous voulez m'y inviter, évidemment, je m'adresse à
l'autorité de la teste de bûche.
Évidemment, je suis preneur.
Et vous pouvez nous écouter sur 104.
La, 104, la exactement. 104 FM. Exactement. Allez, l'addiction du jour. Addiction aux écrans dont nous sommes tous victimes et à la fois responsables. Pourtant, Paul, pour le patron de Netflix, ce n'est pas encore assez.
L'épisode a commencé en 2017. À l'époque, Reed Hastings, fondateur de Netflix, le disait « Notre principal concurrent aujourd'hui, c'est le sommeil. Quand vous regardez une série sur Netflix et que vous devenez accro, vous veillez tard le soir. Nous sommes en concurrence donc avec le sommeil. Et ça fait beaucoup de temps. 7 ans plus tard, et malgré la multiplication des plateformes de streaming, hein, on peut citer Prime, HBO, etc., la firme américaine, via la voix de son directeur général, le confirme. Le sommeil, c'est toujours son principal concurrent. Les gens ont toujours plus d'occasions de se divertir. Nous voulons nous assurer que le divertissement que nous proposons est convaincant. Et si nous pouvons, nous allons conquérir davantage d'heures d'attention. Ironie du sort, quand même, Rémi, il y a 3 ans, Netflix a ajouté à son catalogue un programme appelé le guide Eatscape du sommeil, un tuto de 8 épisodes pour soigner son sommeil. On n'est pas une contradiction près.
C'est drôle.
Mais si Netflix assume avoir pour but de limiter notre temps de sommeil, au final, hein, c'est un peu ça, c'est loin d'être la seule plateforme à s'imposer au cours de nos nuits, notamment chez les plus jeunes. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Rémi. Mais dans une récente étude publiée le 13 juin dernier, l'INSEE rapportait qu'un tiers des jeunes dormaient moins pour rester face à un écran.
Votre sommeil est notre principale concurrence, c'est ce que dit le patron de Netflix. Faut-il boycotter Netflix? Vous nous appelez au 3216. Qui ici? Pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous ne le voyez pas, mais sur Story, vous le voyez. Estelle Midi, et il est écrit en dessous, on ne va pas se mentir. Qui ici est addict à Netflix?
Moi, bah moi.
Thierry Moron.
Moi, je suis addict aux plateformes, mais alors, d'abord, faut quand même.
Attends, Thierry. Est-ce que ça gâche ton sommeil? Ou ça peut gâcher ton sommeil? Nuire à ton sommeil.
J'ai pas le sentiment. Il faut replacer les choses comme elles sont. On est devenu une société du divertissement. Ok. Y a même une étude qui a été publiée en 2019 qui montrait que pour 60% des gens interrogés, le fait de se divertir et le fait d'utiliser éventuellement des plateformes pour le divertissement était devenu quasiment indispensable. Ok. Ça, c'est la première chose.
C'est de l'addiction.
Le temps, il est pas extensible. On a 24 heures dans la journée. Il y en a 8 qui sont pour le travail, 8 qui sont pour le sommeil. Ça, c'est l'idéal. Et 8 dans lequel on fait rentrer loisirs, activités personnelles, divertissement, consommation.
Famille.
On sait. Oui, activité personnelle,
c'est là-dedans
que rentre la famille.
D'accord.
On sait qu'on passe de moins en moins de temps sur les repas. On sait qu'on passe de moins en moins de temps à faire les courses parce qu'on se fait livrer un certain nombre, ou on va au drive, ou enfin, on passe de moins en moins de temps à faire ses courses.
On en parlera tout à l'heure à 14h des commerces de proximité.
Exactement. Donc on est arrivé à une limite qui fait que maintenant, ceux qui s'occupent du divertissement, et ce sont des sociétés capitalistes, le divertissement aujourd'hui est une activité capitaliste, faut bien garder ça en tête, eh bien, faut bien qu'ils progressent quelque part. Souvenez-vous.
Donc, sur notre sommeil.
Pardon?
Sur notre sommeil.
Oui. Et souvenez-vous, le patron de TF1 qui avait expliqué, nous sommes là pour donner du temps de cerveau disponible aux annonceurs. Eh bien, Netflix est là pour donner du temps à sa plateforme. C'est logique. Je dis pas que c'est bien, mais c'est une logique capitaliste. Oui. Donc, évidemment que petit à petit, on va gagner sur ce qui reste à gagner, c'est-à-dire le sommeil. Puisque le travail, ça peut pas bouger.
C'est terrible.
On travaille moins qu'avant.
Non, mais admets-le, c'est terrible quand même, non? On en est à un degré d'addiction qui fait qu'on préfère.
Oui, après, attention, il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup Netflix, qui ne sont pas non plus dans les addictions.
Bah, moi, j'ai vu des collègues quand même arriver le matin régulièrement au boulot en disant je suis crevé, pourquoi? Parce que.
J'ai binge-watché une série.
Bah oui. J'ai regardé trois épisodes.
Alors, très bonne question. Est-ce que ça arrive toutes les semaines? Non. Si une fois tous les 6 mois, t'as une série que tu aimes.
Ouais, c'est plus que une fois tous les 6 mois.
C'est un peu comme quand tu fais la fête avec tes potes
une fois par mois.
C'est
plus d'une fois tous les 6 mois.
Et que t'es fatigué le lendemain,
le matin, tous les matins,
à 5h du matin.
Moi, je suis pas d'accord.
Élise.
je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Thierry. Ton analyse est très fine. T'as raison. Merci. Mais après, moi, l'addiction aux séries, enfin, je faisais déjà des nuits blanches quand j'avais 12 ans, je regardais Newport Beach en DVD. Genre, le binge-watching, c'est pas Netflix qui l'a inventé. Et d'ailleurs, aujourd'hui.
Tu es né fatigué?
Je suis née épuisée. Quand t'aimes les séries, je veux dire, j'en consommais beaucoup plus avant qu'aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, Netflix et Prime proposent des contenus qui sont au-delà de médiocres, parce que justement, on est dans une logique.
Vu le succès de ces plateformes.
C'est un avis qui est global. Je veux dire, Netflix et Prime, si vous regardez, ça fait 2 ans qu'ils arrêtent pas de monter les prix parce qu'en fait, ils ont pas d'argent. Parce que le modèle est pas adapté. En réalité, en France,
Il y a beaucoup de concurrence. Et à un moment, le marché va se.
Je suis complètement d'accord, mais en fait, à l'époque où il y avait pas les plateformes de streaming, on était obligé de créer du contenu de qualité pour capter l'audience. Aujourd'hui, vu que t'es abonné, tu peux créer n'importe quoi.
C'est un robinet.
De toute façon, les gens vont regarder. Sauf qu'en fait, à force de penser comme ça, moi, je sais qu'il y a des plateformes comme Netflix et comme Prime qui ont beaucoup de mal aujourd'hui, par exemple, à capter les femmes sur leur plateforme, parce que les algorithmes veulent que, par exemple, ce qu'aiment les gens, et surtout les hommes, c'est les pistolets et les deals de drogue. Si vous regardez aujourd'hui, faites l'étude entre vous, quand vous rentrez chez vous, regardez tous les contenus originaux qui sont sortis sur Prime, sur Netflix, ou sur toutes les plateformes qui sortent, qui existent ces derniers temps. C'est que de la drogue, que de la violence, et de la prostitution, et des crimes.
Comédies romantiques,
des pistolets. Aussi. Non. Franchement, il y en a 1/10 qui sort où c'est romantique et ça marche pas. Parce que c'est mal fait. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de capter l'audience. C'est comme sur les réseaux sociaux, on a besoin d'être radical pour que ça marche. Mais le problème, c'est que ça marche pas parce que c'est tout le temps la même chose. Tu regardes une série Netflix, une série Prime, honnêtement, aujourd'hui, c'est les mêmes. Je peux même plus faire de différence entre les films qui sortent. Donc c'est nul. Moi, ils me font pas gagner. Leur concurrence, c'est pas le sommeil, vu qu'ils m'endorment. Voilà.
Le soir, est-ce que tu t'endors en regardant une série ?
Moi ? Non, je regarde plus. Je suis désabonné de Netflix.
Fred, est-ce que tu es accro ?
Non, parce que j'ai pas Netflix déjà. Et que je ne veux pas. Je suis abonné à Prime au début pour le foot. Bon, ils ont perdu ils n'ont plus les droits pour l'instant. On ne sait pas ce qui va se passer, mais bon, pour l'instant,
ils vont pas les récupérer.
On va pas les récupérer, mais voilà. Et en fait, je suis abonné à Lina. Donc en ce moment, je suis en train de me refaire
je m'ennuie
toute la série.
Non, c'est très sympa, Lina.
Non, mais je m'ennuie.
Les Rois Maudits, Brigade du Tigre.
Non, mais quand je vous écoute, je m'ennuie.
Mais t'as raison, Lina, c'est top.
Je regarde Lina, je regarde plein de.
Mais non, mais je sais que c'est très bien.
Je regarde des apostrophes.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on a dit la même chose sur la télévision en disant ça va rendre, ça va faire des générations de crétins.
Moi, je regarde
la même chose sur les jeux vidéo. On a même dit la même chose sur la radio à l'époque, et ça n'a jamais fait des générations de crétins.
C'est différent. C'est différent.
C'est pas ce que disent les profs.
Je ne regarde
pas. C'est pas ce que disent les profs. Pas du tout.
Je ne regarde pas les séries actuelles parce que ce sont des séries qui sont faites pour être addictives. C'est-à-dire qu'on.
C'est l'usine.
Il faut bien expliquer les choses. C'est-à-dire, une chose, c'était les séries qui sont les mêmes personnages, etc., mais où l'histoire se termine au bout de 54 minutes. Tu comprends ? C'est un petit film en lui-même.
Ça, c'était bien.
Mais je t'explique pourquoi. Parce que ça, t'as regardé ta série et après tu vas te coucher. Le problème.
Thierry Lafronde.
Oui, laisse-moi. Ouais, mais, non, mais
oui, Netflix qui veulent, c'est que t'as envie de regarder l'épisode d'après.
Je peux terminer.
Je te taquine.
D'accord, mais laisse-moi expliquer un truc.
Ne t'énerve pas.
Non, mais.
Vas-y, Fred.
Nous sommes tous avec toi, Fred.
J'essaye de vous expliquer la différence entre une série où il y a une histoire
unitaire. On appelle ça un unitaire.
Laisse-le finir, Rémi.
Mais laisse-moi fermer la phrase quand même, Rémi, bordel.
Pas de gros mots.
Venez, on l'interrompt tous, on ne laisse jamais finir une phrase.
Vas-y, Fred.
Je rigole, Fred, pardon.
L'addiction ne vient pas d'une série dont l'histoire se termine, parce que une histoire. Tu prends les Brigades du Tigre, par exemple. Il y a une histoire, tu as les personnages qui sont là. L'histoire se termine au bout de 54 minutes. Le problème, c'est quand c'est feuilletonné et que la construction du scénario, et c'est fait exprès, t'invite, tout de suite, tu veux aller sur l'épisode d'après. Et donc, parfois, tu te fais 3-4 épisodes de suite parce qu'il y a un lien entre l'histoire et que tu es happé par l'histoire. Oui. Et ça, c'est une culture. C'est une culture de séries faites pour cela.
Oui, mais ça a aussi permis de développer des belles séries. On en parlait. On parlait des séries de Canal+, La Fièvre, Baron Noir, par exemple. Ça te permet aussi de raconter une vraie histoire,
pas seulement quand c'est à suivre, automatiquement tu es tenté,
évidemment,
parce que t'es pris dans l'histoire de regarder. Alors que quand c'est unitaire, comme l'explique très bien Rémi, quand l'histoire se termine, t'as pas forcément envie de recommencer une même histoire. Voilà.
On vous pose la question, mais je t'en prie.
Pour m'expliquer.
Je t'en prie, votre sommeil, c'est comme un épisode d'une bonne série, c'est plein de rebondissements. Votre sommeil est notre principal concurrent. Faut-il boycotter Netflix? Vous nous appelez au 3216. Fabrice est avec nous. Bonjour Fabrice.
Comme l'a dit un certain
on ne coupe pas les auditeurs, Fred.
Oui, bonjour. Je suis peut-être trop intelligent, trop, voilà.
Tu es tout trop, tu es trop tout. Fabrice est avec nous. Bonjour Fabrice.
C'est Fabrice.
Oui, bonjour.
On est à Saumur. C'est ça Fabrice?
Oui, c'est ça, exactement.
Merci d'être avec nous. Vous faites quoi dans la vie?
Je suis contrôleur de gestion.
Très bien. Bon, alors Fabrice, c'est extraordinaire. Tout le monde nous dit que tout le monde est addict aux plateformes, aux séries, et ici, personne ne l'est.
Si.
C'est extraordinaire, si. Ouais, c'est ça. Fabrice, est-ce que vous êtes addict aux séries?
Oui, je suis addict aux séries.
Est-ce que ça nuit sur votre sommeil?
Non, comme j'expliquais dans mon message, à l'inverse, hein, ça me permet de me coucher plus tôt.
Ah bon?
Il n'y a pas de publicité, je mets mes séries à l'heure que je veux. Donc, sincèrement, je sais m'arrêter. Hein. C'est clair que
ça vous arrive jamais d'empiéter un petit peu sur votre sommeil?
Non,
des gens raisonnables autour de moi. C'est extraordinaire.
Mais bon, par rapport aux émissions qu'il y a actuellement à la télévision, je suis désolé. Hein, vous regardez un film ou une série le soir.
Ah bah oui, c'est ça.
Pas avant 9h30, ça finit pas avant 9h30.
Ça a vachement évolué dans le mauvais sens.
Thierry, ça c'est un combat.
Ce que dit Fabrice est intéressant. On peut être un gros consommateur de séries et pas être addict aux séries. Je pense que l'addiction à toute chose, aux séries comme aux autres choses, c'est quelque chose de très particulier. Oui, on peut consommer des séries très tard, mais moi je suis désolé, il m'arrive quelquefois en ce moment, grâce aux plateformes qui te permettent de commencer ton programme quand tu veux, de commencer le programme du soir avant même qu'il ait débuté sur le linéaire. C'est ce que permet Canal par exemple, ce qui est une plateforme comme une autre maintenant. Eh bien Canal te permet de regarder le programme du soir, non pas d'attendre 21h15 qu'elle soit à l'heure, mais quand tu as fini de dîner et que tu es libre, tu peux commencer à 20h45. Donc attention, l'addiction c'est quelque chose de particulier. Franchement, on peut être gros consommateur de séries.
Il n'y a pas d'addiction.
Et ne pas, perdre.
Paul,
si ça existe.
Paul,
si,
donne-nous des chiffres. Donne-nous des chiffres.
Paul, oui, tu m'as demandé de regarder le temps d'écran moyen par français. C'est quand même 4h30 par jour.
Alors, tout compris, hein, c'est.
Ah oui. Non, mais
portable. Hors boulot.
Bien sûr.
Hors boulot,
oui, mais portable.
Mais oui, mais faire quand même 4 heures par jour. Tu nous disais tout à l'heure, c'est 8 heures de sommeil dans l'idéal.
Oui.
8 heures de travail.
Oui.
Et il reste que 8 heures.
Je connais très bien le sujet.
Mais non, mais à vous écouter, tout va bien. Les Français, le soir, je vais sur l'INA pour regarder les Brigades du Tigre. Toi, tu regardes. Toi, tu ne regardes pas.
Je regarde très tard les séries. Mm. Je pense que je suis un très très gros consommateur. Mm. Mais ces 4 heures de consommation, il y en a au moins une heure qui se fait sur le temps de travail. Il y en a au moins 2 heures qui se fait. Mais bien sûr que
c'est sur le temps de travail. Oui,
Il y en a bien 2 heures qui se font sur le temps personnel et il y en a peut-être 2 heures qui se font sur le sommeil parce que les gens regardent dans leur lit. Et encore une fois, ça englobe tous les écrans.
Une autre réalité, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de gens qui essayent de développer des séries et il y en a très peu qui sortent parce qu'en fait ça ne marche plus. Je vous le dis, en France les Français, les séries françaises ne marchent pas. Bah attends, je te dis des trucs que je sais parce que
il y a des problèmes de scénario. Vous êtes capable de faire des bonnes séries aussi.
Oui, mais sur 10 séries
autour de moi, j'ai que des gens qui disent j'ai écrit la série du siècle.
Oui, bah c'est pas ouf.
Et bah tout va bien, le patron de Netflix peut être rassuré en vous écoutant, il y a encore du temps de sommeil à prendre. Voilà.
Oui.
Paul.
Oui, des messages Rémi, Damien qui va dans le sens de ce que disait Fabrice. Il nous parle de la télé, toutes les chaînes de télé font déjà la guerre au sommeil, les films commencent maintenant à 21h20 pour finir à minuit. C'est pas des horaires quand on a une vie active. Et là, à l'inverse de Fabrice, il n'y a pas la gestion du direct ou quoi que ce soit. Mmh. Et ce message d'Aïcha qui, elle, pointe un autre problème, c'est on passe tellement de temps, parce qu'il y a une offre tellement grande, on passe tellement de temps à chercher une série.
Oui, c'est vrai.
On peut passer presque plus de temps à chercher qu'à regarder.
Et merci à Fabrice qui nous a appelé au 3216. Il nous a appelé depuis Saumur. Faut-il boycotter Netflix?
Qui déclare la guerre à notre sommeil. Eh bien, pour vous, c'est un non pour 63% de ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Un vélo qui roule tout seul, sans personne dessus. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Allez hop, à vélo.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Anthony Morel nous a rejoint avec son concert de sonnette, évidemment.
Ça manque un peu d'insultes, hein, le concert de sonnette.
Oui, c'est vrai. Allez, pousse-toi. Anthony, salut.
Salut, salut.
Après la voiture, le vélo autonome.
Exactement.
Un deux roues qui roule tout seul, sans personne sur la selle et qui tient debout sans béquille.
Ça va être un peu bizarre.
Ça va faire bizarre. Ça sera peut-être bientôt une scène du quotidien.
Ouais, ouais, c'est ça. Va falloir s'y habituer. Alors, c'est vrai que la première fois que vous allez croiser un vélo sans personne sur la selle, en mode c'est l'homme invisible qui est en train de pédaler, vous allez trouver ça un peu étrange. Et pourtant, c'est une technologie qui est en cours de développement. Alors notamment, ce sont des ingénieurs chinois qui ont mis ça au point et les images sont absolument dingues. Je vais les décrire pour ceux qui nous écoutent. Donc vous avez ce vélo qui n'a pas de béquille, il tient tout seul. Et ensuite, il se met à rouler tout simplement en avant, en arrière, sans aucun problème. Alors vous avez un système d'auto-stabilisation, il y a des gyroscopes, des accéléromètres, tout un tas de capteurs électroniques qui lui permettent en fait de tenir debout sans aucun problème, de se guider. C'est les mêmes technologies que sur les voitures autonomes en fait, donc de par exemple
éviter un piéton.
Éviter un piéton, c'est mieux, hein, limite éviter les obstacles.
Ça, c'est très utile pour un vélo, hein.
C'est quand même pas mal.
Ah oui, parce qu'il
y a quand même quelques problèmes de ce point de vue-là. Et alors tu peux aussi, si tu es sur le vélo quand même, il y a un système qui s'apparente à de la conduite autonome. C'est-à-dire le vélo, si tu tombes complètement, mais il va quand même te guider un peu. Un système d'assistance
dessus, sinon ça sert à rien, un vélo tout seul.
Alors,
il va où?
Ça sert à quelque chose, figure-toi. À quoi ça peut servir? À ton avis, réfléchis. Ça peut servir un vélo? Toi, tu sais. Parce que je te l'ai dit.
Oui.
Non, mais même, je peux deviner.
Vas-y, devine.
Par exemple, j'ai pas de vélo personnel.
Ouais.
Je suis au boulot, je dis tiens, je prendrais bien un vélo pour rentrer chez moi.
Par exemple.
Je vais en commander un.
Très bon cas d'usage, exactement.
Et tu comme un tu commandes. Rémi, parce que Anthony nous
a dit. Oui, c'est vrai. Je me souviens très bien que j'avais dit aussi.
Je me souviens pas du tout.
D'accord. Non. Alors, donc, ouais, en fait, tu peux commander ce vélo-là. Ça pourrait révolutionner, en fait, tu sais, les flottes de vélos en libre-service que tu as dans les centres-villes. C'est-à-dire que tu pourrais commander un vélo comme tu commandes un VTC.
Évidemment.
Via une application. Et plutôt que d'aller chercher le vélo ou d'aller vers une borne, eh bien, c'est le vélo qui viendrait vers toi. Ça, c'est la première chose.
Et puis, devant chez moi, je dépose mon vélo, il repart tout seul.
T'as tout compris, exactement. Ah, et non seulement il repart tout seul, mais il va pouvoir localiser. Je te l'avais dit aussi, mais c'est pas grave. Il va aller localiser les endroits où il y a le plus. Il est fort quand même, c'est pas mal, on y croyait. Hein. Là où il y a de la demande, c'est-à-dire là, par exemple, les quartiers un peu touristiques, les zones un peu fréquentées. Et donc, les chercheurs qui ont mis ça au point, ils estiment qu'on pourrait, grâce à ce genre de technologie, diviser par 3 le nombre de vélos dans une flotte de vélos dont tu as besoin dans une ville donnée. Parce que tu vas optimiser leur placement à chaque instant. C'est ça qui est intéressant. Alors celui-ci, il est absolument incroyable, le vélo chinois dont je vous parlais. Il y en a un autre qui a été créé par des ingénieurs du MIT, technologie un petit peu différente, mais que je trouve très intéressante aussi. C'est que le vélo, en fait, il est en mode tricycle quand il est tout seul, quand il n'y a personne sur la selle. Et quand tu le récupères, en fait, tu rabats la roue et tu te retrouves avec un vélo à deux roues. Mais le fait d'être en tricycle, ça lui permet d'avoir de la stabilité et de rouler plus facilement. Donc c'est assez malin également.
Et on peut imaginer ce type de technologie pour d'autres deux roues, des scooters, des motos.
Ouais, absolument. Il y a des projets, BMW, Honda, enfin toutes les grandes marques travaillent aussi sur le petit tricycle que je trouve très rigolo. Mais il y a toutes les marques de motos, de scooters qui travaillent aussi sur ce sujet.
Quand tu seras en voiture et que tu te feras doubler par une moto, ça va quand même faire très bizarre.
Ça va te faire bizarre. Non, le gros point faible aussi de ces vélos autonomes, parce que ça, j'en ai pas parlé, c'est que ça coûte quand même très cher à développer. Et tu imagines bien que dans des villes civilisées comme les grandes villes françaises, c'est-à-dire pas
mais
du
c'est
tout,
ce que j'allais dire, elles vont c'est finir à voler ça.
Elles vont finir écrabouillées par terre.
Alors à voler ou à balancer dans la Seine, dans la Loire ou dans le Rhône, tu vois, comme les trottinettes ou les vélos que tu as aujourd'hui
on
en libre service.
Les vélos. Ben, non, mais c'est un peu le problème.
En gros, c'est fait pour quelques kilomètres carrés dans le monde, quoi.
C'est ouais, c'est un peu ça. Tu vois, à Singapour, ça doit marcher. Mais sinon, chez nous, c'est un peu compliqué parce que effectivement, alors la durée de vie moyenne, j'ai les chiffres pour les trottinettes, j'ai pas pour les vélos, mais une trottinette, c'est moins d'un mois la durée de vie moyenne. Sachant que ces technologies-là, ça fait que la trottinette ou le vélo va coûter 5 à 6 fois plus cher que le modèle classique. Donc tu vois, en termes de retour sur investissement pour les fabricants, je suis pas certain que ça fonctionne des masses, en tout cas pas chez nous. Après, pour les motos et les scooters, c'est aussi très intéressant parce qu'effectivement, tu pourras avoir des briques de technologie sans avoir la moto forcément complètement autonome, mais des assistances à la conduite qui vont être extrêmement intéressantes aussi, comme ce qu'on a dans les voitures en fait. Et ça, pour la sécurité, pour éviter les accidents, c'est aussi un vrai atout. Hein. Donc c'est pas seulement du gadget. Voilà, c'est ce que je veux.
Merci beaucoup, Anthony Morel, que vous pouvez retrouver en podcast sur l'application RMC, bien sûr, et sur toutes les plateformes d'écoute. Allez, dans un instant, sur RMC, un an, tout juste après le début des émeutes et la mort de Naël à Nanterre. Faut-il donner une deuxième chance aux mineurs délinquants? On vous pose la question au 32-16. Dans un instant, vous pourrez d'ailleurs découvrir un documentaire exceptionnel RMC. Marion Dubreuil, qui fait partie du service police-justice d'RMC, a pu suivre une audience devant un juge. juge pour enfants d'un mineur qui était impliqué dans ces émeutes. Vraiment, restez avec nous parce que c'est très intéressant ce qu'elle a pu recueillir comme témoignage. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.